Demidov has it. Demidov circles in front. Scores! With the digits on his back of 93. Goes after it now. He's in. He scores! Oh my! Demidov! Here's Demidov. And his career is underway here with the Montreal Canadiens. And listen to the crowd here at the Bell Center. Demidov.
Demidov. Oui, monsieur, Demidov. Sur la liste de Scott Wheeler qui a répertorié les 100 meilleurs espoirs de moins de 23 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il y a un bémol ici. Ce sont des joueurs qui ne sont pas considérés comme établis. Donc, dire qu'un gars comme Connor Bedard à Chicago, il est déjà établi, il n'est pas dans la liste. Même chose pour Slafkovský. Même chose pour des joueurs un peu plus marginaux, mais vraiment, ce sont les joueurs qui le considèrent encore comme des espoirs. Évidemment, Demidov, parce qu'il a joué qu'une poignée de rencontres, fait encore partie de cette liste-là. Et il est troisième sur la liste de Scott Wheeler. On va en parler avec Martin Thériault. Salut, Marty!
Hey, salut, les gars, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien.
Troisième, Marty. T'as une position quand même assez enviable pour Demidov.
C'est une position enviable. Ça fait, je pense que ça fait simplement démontrer qu'est-ce que Ivan Demidov, premièrement, avait comme réputation lorsqu'il a été repêché. Mais également, là, où il est en mesure d'amener son jeu. Puis c'est toujours intéressant de voir les commentaires de Scott Wheeler. C'est une chose de placer le joueur à un endroit, mais tu sais, il faut quand même que tu vois, il va quand même aller justifier pourquoi il le place aussi haut que ça. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'Ivan Demidov, premièrement, il n'a pas peur de dire que au niveau créativité, et là, c'est même plus que Matthew Schaefer, même plus que Michael Misa, qui sont premier et deuxième. Il prend la peine de mentionner, c'est probablement le gars au niveau créativité qui est le meilleur au complet, tout court. Donc, le meilleur, là, vraiment. Puis il mentionne également qu'il entend souvent, et je pense qu'on le voit dans les dernières semaines, on le voit présentement dans la région de Montréal, on voit qu'il travaille très, très fort. On voit souvent des vidéos à quel point hors de là, travaille très fort. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail vraiment incroyable. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. On l'a tous vu. On a vu à quel point il a été capable, lors de sa dernière saison avec le Scott Saint-Pétersbourg, de passer d'un joueur non seulement très offensif avec des mains complètement hallucinantes, mais d'être en mesure de s'améliorer à beaucoup d'aspects dans son jeu. Donc, devenu pas mal plus physique, devenu pas mal meilleur défensivement. C'était pas toujours facile, mais il y a quand même eu une progression tout au long de l'année. Et là, ben, quand tu parles de troisième espoir, tu parles de quelqu'un qui peut potentiellement obtenir... Tu sais, Michael Misa, là, c'est quelqu'un que je peux voir 80 points environ dans une saison. Donc, c'est de se dire qu'Ivan Demidov... Et je peux comprendre qu'il soit troisième. C'est pas un joueur de centre, contrairement à Misa. Donc là, tu sais, de dire, tu peux l'avoir comme un joueur de 80, 90, 100 points. On est là, puis honnêtement, ben pour un espoir de la trempe d'Ivan Demidov, c'est tout simplement logique.
Tu sais, je regarde rapidement le top 5. Là, c'est Matthew Schaefer, Michael Misa, Demidov, Zane Parekh, Zeev Bouyum, Sam Dickinson et compagnie. Là. Si Marty, t'avais eu à dresser ta propre liste, là, je ne vais pas prendre pied plat, là, mais est-ce que Demidov aurait terminé lui aussi au troisième échelon sur ta liste à toi?
C'est une excellente question. Je me suis posé énormément la question par rapport à ce que je le plaçais devant Misa. C'est sûr qu'il n'est pas quatrième. J'aurais eu le goût de le placer deuxième, honnêtement, là, mais probablement que la position de joueur de centre, moi, souvent, je vais accorder une importance à ça. Donc là, c'est là que Michael Misa, ça a quand même une logique de le placer deuxième, mais je me demande si au niveau offensif, si au niveau de l'impact, au niveau du jeu, si un Demidov ne sera peut-être pas meilleur même qu'un Misa qui, on le rappelle, est à sans nausée aussi, il est bloqué derrière un Macklin Celebrini.
Exact, ouais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir, honnêtement, maudit, j'ai hâte que la saison commence. Bon, ça, c'est un autre dossier. Il y a trois joueurs du Canadien dans cette liste-là de Scott Wheeler. On retrouve David Reinbacher, 39e, et Michael Hage, 51e. Reinbacher, 39e rang. Bon, en partant, lorsque tu considères qu'il a été repêché 5e en 2023, ça semble un peu bas. Mais si on ajoute à ça des gars comme Connor Bedard, des gars comme Leo Carlson, des gars comme Matvei Michkov qui ont tous déjà gradué en 2023, il est quand même le 6e de l'encan de cette année-là sur la liste de Wheeler. Je le sais qu'il n'a pas joué beaucoup dans les dernières années, mais est-ce que ça reste une déception pour toi de voir Reinbacher à cet endroit-là?
Peut-être un petit peu. En même temps, encore une fois, je me rabats un peu à ce que Scott Wheeler va donner comme explication. T'sais, lui, il mentionne beaucoup qu'il ne voit pas nécessairement Ivan Demidov avec un gros potentiel offensif. Puis lui, dans sa liste, personnellement...
Tu parles de David Reinbacher. Là, tu as dit Ivan Demidov, mais tu parles de Reinbacher.
Demidov, ouais, je voulais dire Reinbacher, mais c'est ça. Donc, t'sais, il n'est pas certain de son potentiel comme défenseur offensif. Il dit qu'il manque peut-être d'éléments de flamboyant, ce qui peut se comprendre. Moi, personnellement, je regarde sa liste, par contre, Et là, c'est normal. Lorsque tu fais un top 100, je me lancerais dans un exercice comme ça, puis probablement que Scott Wheeler lui-même aurait des doutes sur certains joueurs. Tu sais, le fait qu'il ait placé Andrew Kristol devant, Andrew Kristol qui est un petit attaquant très talentueux, beaucoup de main, mais a des doutes sur son coup de patin et son jeu défensif. Est-ce que David Reinbacher est meilleur que Kristol? Moi, j'ai l'impression que oui. Wheeler, lui, ne le pense pas. Donc, c'est sûr qu'il y aurait moyen peut-être de lui donner quelques positions. En même temps, ben, tu l'as bien mentionné, Deso, je pense que le fait de ne pas avoir joué beaucoup de matchs, le fait d'avoir eu des blessures et tout ça, ça ne l'a pas vraiment aidé, ça ne lui a pas donné le potentiel d'aller un peu plus loin. Je pense qu'il est capable d'en offrir un peu plus. T'sais, il parle qu'il ne vaut pas nécessairement de jeu offensif chez Reinbacher, mais moi, ce que j'ai vu à Laval, c'est qu'il a commencé à le voir se développer. Il a commencé à sortir un tir sur réception pas mal plus sous-estimé que ce qu'on pouvait penser lors de son année de repêchage. Quelqu'un qui a parfois un bon flair pour transporter la rondelle et tout ça, je pense qu'avec du millage, il est capable d'aller en chercher plus. Peut-être pas dire on le place dans le top 10 des meilleurs espoirs repêchés, là,
ouais.
Mais peut-être plus que 39e aussi. Là.
Ouais, pour Reinbacher l'année prochaine, là, c'est même pas un objectif de points. Moi, tout ce que je veux, c'est 82 matchs joués. Ou en tout cas, peu importe combien il va en jouer s'il joue avec le Rocket. Là. Mais je veux une saison complète. Pas de blessure. C'est pour moi, c'est ça le facteur le plus important. Je suis un peu à la même place que lorsque Cole Caulfield est revenu de son opération à l'épaule. Prouve-moi que tu es capable de rester en santé, puis le reste va suivre éventuellement. Bon, le troisième joueur sur la liste, Michael Hage, 51e. Lui, c'est quand même intéressant parce qu'il a réussi à devancer quelques joueurs de sa cuvée. On peut penser à des Konstantinos ou encore à des Jet Luchenko. Ça semble quand même assez prometteur pour Michael Hage.
Ouais, là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Scott Wheeler est un énorme partisan de Michael Hage. Il l'adore et tu le vois un peu dans ses propos. Il pense que c'est un attaquant top 6, donc ça, c'est en partant. Il mentionne que, puis ça, il a raison, là, il mentionne que son coup de patin est élite. Il est capable de te faire mal autant avec des passes qu'avec son tir. Il lit souvent très, très, très bien le jeu. Peu importe qu'est-ce que tu lui donnes, il va être en mesure d'aller chercher les espaces, de réaliser énormément de jeux. Il a beaucoup d'instinct aussi. Donc, il dit que c'est pour lui, c'est dur quand même à ignorer. Donc, est-ce qu'il pourrait être plus haut? Peut-être pas nécessairement. Moi, je pourrais peut-être penser qu'un gars comme Elenius, par exemple, qui a eu une belle saison dans la Ligue américaine à Rochester, pourrait peut-être être devant. Moi, j'ai toujours quand même bien aimé. Mais c'est dire à quel point Michael Hage a quand même un aspect intéressant. Puis, tu sais, on le voit au cas de perfectionnement des Canadiens. L'un des gros aspects qui restait à travailler pour lui, c'est le côté gabarit, c'est le côté force physique. En fait, c'est pas nécessairement la taille, mais c'est vraiment plus d'être un peu plus solide le long des rampes. Et on l'a vu dans le cas de perfectionnement. Il a été pas mal meilleur. Ça faisait en sorte qu'il était complètement dominant. Donc, tu sais, je pense que tout est permis dans le cas de Michael Hage. Lui, Scott Wheeler, et je pense qu'avec raison, il s'attend à le voir avec l'équipe canadienne junior à la période des fêtes. Donc, tu sais, avec une autre belle deuxième saison à Michigan, en travaillant sur son jeu offensif, en travaillant sur sa confiance et en travaillant sur son jeu défensif, c'est peut-être le gros détail qui reste à peaufiner dans son jeu. Mais bon, tout est quand même positif pour Michael Hage.
Là, il y a bien des gens sur le message de texte qui se demandent où est Lane Hutson? Ben, Lane Hutson est considéré comme gradué dans la Ligue nationale de hockey. Il faut dire que quand tu mets la main sur le trophée Calder, difficile de te considérer comme pas établi dans la Ligue nationale. Cela dit, on aurait peut-être pu voir d'autres membres du Canadien de Montréal se faufiler là, mais il n'y en a pas d'autres. Ça aurait été qui, Marty, pour toi, le quatrième meilleur patineur chez le Canadien? C'est notre question, justement, de sondage du jour aujourd'hui. C'est-tu Owen Beck? C'est-tu Zarovski? C'est-tu Florian Jacquet? C'est-tu Adam Engstrom? C'est-tu Joshua Roy? Selon toi, c'est qui le quatrième meilleur patineur dans l'organigramme du CH?
Ben, avant d'y aller, Deso, parce que je regardais, parce que Scott Wheeler a publié aujourd'hui un top 20 des gardiens. Il l'a fait il y a quelques minutes à peine. Et Jacob Fowler est deuxième, attache bien ta tuque, là, deuxième derrière Yaroslav Askarov. En fait, il fait un groupe là, pour les meilleurs espoirs et t'as Askarov et Fowler devant. Donc, tu sais, pourquoi Jacob Fowler n'est pas là? C'est qu'on l'a placé dans le top 20 des gardiens de but et soudainement, il est deuxième. Il prend la peine de mentionner, Fowler ne sera pas seulement un bon gardien, il va être peut-être l'un des meilleurs, vraiment. Il l'adore, il pense vraiment qu'au niveau de sa force de caractère, au niveau de réaliser des arrêts quand même faciles, de faire des bons déplacements et tout ça, d'avoir une belle vision de jeu, il pense que Fowler a un gros potentiel. Donc ça, c'est intéressant, mais Pour revenir à ta question, Deso, le quatrième meilleur espoir, moi, je pense que c'est Oliver Kapanen. Moi, je pense que Kapanen, pour l'instant, je vois quand même un jeu bon dans les deux sens de la patinoire. Oui, parfois, il manque peut-être un peu d'opportunisme. Pis ça n'a pas toujours été facile, disons, vers la fin de la saison à Laval et tout ça, mais je pense qu'avec un peu de rythme, avec le fait d'avoir une première saison complète en Amérique du Nord, c'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais lancer, c'est quelqu'un qui comprend bien le jeu. Je sais qu'on aimerait voir peut-être un peu plus physique, mais je trouve qu'il y a quand même une amélioration par rapport à la saison dernière. Et t'sais, honnêtement, t'sais, la plupart des bons espoirs des Canadiens commencent à graduer ou sont très hauts. Et là, par la suite, ben là, ça fait en sorte que tu as des joueurs plus complémentaires qui se retrouvent dans un groupe. T'sais, t'as parlé de Wenbeck, t'as parlé d'Adam Engstrom, t'as parlé de Joshua Roy, ces gars-là. Ben, pour l'instant, je donne un léger avantage à Kapanen parce que je trouve qu'il est peut-être un peu plus rapide. C'est signalé dans des moments peut-être un peu plus importants et il y a moins de doutes également sur l'ensemble de son jeu, contrairement à un Joshua Roy, par exemple. Donc, je vais avec Kapanen.
Quel rôle pour Kapanen cette année? À Laval? À Montréal? Sur quel trio? Rôle offensif? Rôle défensif? Comment tu le vois cette année, Marty?
C'est intéressant. Moi, j'aimerais ça quand même le voir à Laval, je pense, pour être en mesure de justement aller peaufiner, aller chercher peut-être un peu plus d'attaque, prendre du temps de jeu, s'habituer au rythme nord-américain, les petites patinoires, de pouvoir vraiment prendre de la confiance. Mais en même temps, on regarde en ce moment l'organigramme des Canadiens de Montréal, surtout au centre. Il y a peut-être un trou, là, au sein d'un troisième ou d'un quatrième trio. Et c'est le gars qui a le plus d'expérience, c'est le gars qui est le plus âgé dans tout le groupe de ceux qui peuvent se battre pour un poste. C'est quand même lui qui a joué avec les Canadiens en série. C'est quand même lui qui a joué le plus de matchs par rapport à Beck, qui a joué 18 matchs. Donc on dirait que j'ai tendance à penser que sa place est peut-être à Montréal pour commencer. Il s'était taillé un poste au camp d'entraînement l'an dernier. Donc pourquoi ne pas le revoir avec la formation dès octobre, même si je suis pas nécessairement un grand partisan de le placer dans un rôle tout de suite de quatrième trio en partant.
Ouais, ce qui est le fun avec ça, c'est que faut pas qu'il ait cette position-là par défaut. Il faut qu'il prouve au camp d'entraînement qu'il mérite sa place. Moi, c'est ça que je demande. Tu sais, il y a une belle profondeur. Là, on peut ajouter à ça, évidemment, Wenbeck, mais Vincent Rorer aussi. Écoute, les gars, let's go. On se bat pour une place. Puis celui qui arrivera au top, ben, il va avoir la place. Puis si personne n'est capable de faire le travail, ben, tout le monde en bas. Puis lorsque vous serez affamé, puis lorsque vous serez capable de faire le boulot, ben là, vous graduerez dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est important de ne pas y aller, de donner des places par défaut à des jeunes. T'en vaut pas un bon message, puis c'est pas bon pour la suite des choses. Fait qu'on verra bien comment ça va se passer en septembre prochain. Merci Marty, encore une fois, pour ta chronique ce matin.
Ouais, fait plaisir les autres.